Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Votre voyage a été annulé et vous n'avez pas de nouvelles de votre compagnie aérienne? Vous avez fait des achats en ligne il y a des mois et on ne vous a rien livré? Vous avez réservé une salle de réception et le commerçant veut vous obliger à accepter une autre date? Comment, dans ces cas-là, défendre vos droits? Deux fois par mois, les avocats d'Options consommateurs et moi allons décortiquer tout ça pour vous, pour que les petits caractères, vous savez justement là, ceux qu'on ne lit jamais, vous causent le moins de soucis possible. Avant de se lancer, quelques nouvelles brèves. Nous vous avons parlé dans notre dernier balado des difficultés rencontrées par les voyageurs qui veulent être remboursés par leur compagnie aérienne. Si vous l'avez manqué, il faut vraiment l'écouter pour connaître vos droits. Au moment de la diffusion de notre balado, la compagnie aérienne WestJet a annoncé qu'elle rembourserait ses clients et ceux de sa filiale Swoop. De plus, le député du Bloc québécois Xavier Barcelou-Duval a déposé un projet de loi qui vise à redire ce que la loi dit déjà, c'est-à-dire que les voyageurs dont le vol a été annulé à cause de la pandémie ont droit à un remboursement. Nous vous en reparlerons. 11 ans après le début des procédures, la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel de Meubles Léon concernant une publicité trompeuse. Options consommateurs avait intenté une action collective qui reprochait à Meubles Léon d'attirer ses clients avec une promotion de type « Achetez maintenant, payez plus tard ». Cette promotion faisait croire aux clients qu'ils n'auraient rien à payer avant plusieurs mois. Mais dans les faits, les clients devaient payer des frais annuels d'adhésion de 21 $. La Cour suprême confirme ainsi le jugement de la Cour d'appel qui permettra à 7 000 clients visés par cette action collective de se faire rembourser ses frais de 21 $. Ce jugement pourrait aussi changer les façons de faire dans ce genre de publicité. En Italie, l'autorité de la concurrence a ouvert une enquête sur le géant Google. L'enquête porte sur les abus potentiels de Google dans le marché des publicités d'affichage en ligne, c'est-à-dire celles qui contiennent une image ou une vidéo. L'organisation italienne reproche à Google d'abuser de sa position dominante en utilisant l'énorme quantité de données recueillies sur ses utilisateurs pour empêcher ses concurrents de rivaliser efficacement contre elle. Cette situation pourrait avoir des conséquences sur vous, entre autres, en décourageant le développement de techniques publicitaires moins intrusives pour les consommateurs. Une histoire à suivre. Le confinement et le télétravail nous ont fait rentrer à la maison. Beaucoup d'entre nous en ont alors profité pour se lancer dans des travaux d'amélioration ou de rénovation de leur chez-soi. Le monde de la construction est une jungle qu'il faut apprendre à apprivoiser. Pour nous aider à y voir clair, je reçois Élise Thériault, avocate à Options consommateurs, et Marc-André Arnois, directeur général de l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. Bonjour Élise, bonjour Marc-André.
Bonjour.
Allô Pierre.
C'est pas pour rien hein, que je pense qu'on va parler de rénovation aujourd'hui. Je lisais un article dans le journal récemment qui avait des files d'attente à l'extérieur des quincailleries. Vous recevez énormément d'appels, de plaintes de gens là-dessus. Puis je vous donne juste un chiffre avant de commencer. Hein. Les rénovations, là, au Canada, l'an dernier, c'était 80 milliards de dollars. Et ça, c'est plus que la somme dépensée par les Canadiens pour des maisons neuves. Bon, partons là-dedans. Je veux faire des rénovations chez moi. Donc, on va essayer de parler d'abord prévention. Comment je choisis mon entrepreneur, Élise?
Bon, il y a plusieurs choses à faire. Hein. On peut d'abord aller voir sur des sites web comme celui de l'Office de la protection du consommateur. On peut voir les plaintes qu'il y a eues dans les deux dernières années. On peut aussi aller voir sur le site de la Régie du bâtiment du Québec pour voir si notre entrepreneur a une licence, premièrement, pour effectuer des travaux. Puis deuxièmement, si sa licence, elle permet de faire les travaux que nous, on souhaite faire. Ensuite, on peut regarder si cette licence-là a été suspendue, mais c'est certain que c'est difficile parfois de retrouver un entrepreneur là, parce que des fois, il change de nom, il change de compagnie.
Puis, il y a un autre truc, je pense, qu'on peut faire. Hein. On peut aller fouiller sur un site qui s'appelle Canlii, C-A-N-L-I-I. Et ça, on peut trouver par là, Marc-André, toutes les causes les poursuites peut-être contre l'entrepreneur éventuel que je veux engager.
Les entrepreneurs les moins recommandables, hein, ils ont souvent comme habitude de changer de nom régulièrement. Et puis ça, c'est problématique parce que quand on regarde leur dossier de nouvelle entreprise, hein, ça a tout l'air une belle entreprise sans histoire parce que veux pas, c'est la version nouvelle mouture de leur entreprise. Et c'est difficile d'avoir de l'information sur ce qu'ils ont fait avant. Mais quand on va fouiller dans les dossiers des tribunaux, les entrepreneurs, ils gardent leur nom personnel à la cour. Donc, si on va sur Canly, par exemple, et qu'on cherche le nom de l'entrepreneur, on peut voir les différents dossiers dans lesquels il est impliqué dans le passé, que ce soit avec des clients ou avec des sous-traitants.
Il s'en méfie parce que s'il y a eu, je ne sais pas moi, 4 à 5 poursuites contre cet entrepreneur-là, c'est peut-être pas recommandable de l'engager. Mais finalement, pour le trouver, là, l'entrepreneur, c'est quoi, on fonctionne par référence? Comment on fonctionne, Élise?
Bien, c'est certain que le bouche à oreille, c'est le meilleur truc. Donc, demander des références à ses amis, à sa famille ou bien même sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qu'on connaît, qui a été satisfait d'un entrepreneur, c'est généralement une bonne source d'information.
J'ai trouvé mon entrepreneur. Alléluia, j'en ai un. Évidemment, on va signer un contrat. Si je reviens à moi, alors, c'est probablement ce qu'il ne faut pas faire parce que je m'en accuse, j'étais animateur de la facture, j'ai signé le contrat sans trop le regarder. Bon, alors, vous allez nous dire... cordonnier mal chaussé. Alors, quand on signe un contrat, oui, Élise, je te vois rire, là, parce que c'est vrai que j'étais cordonnier mal chaussé, hein, j'aurais dû le regarder, mon contrat, hein.
Ah oui, certainement. Puis en plus, il faut le faire détailler, il faut le lire, il faut le comprendre, puis il faut mettre le plus d'informations possible dedans pour éviter les surprises. Donc, quelles sortes de travaux sont prévus? Quels matériaux? Quel temps? Hein, quel temps ça va prendre? À quelle date ça va être livré, les travaux? Donc, le plus d'informations qu'on peut, parce qu'un contrat, ça lie à la fois l'entrepreneur et le client. C'est la loi des parties. Ça veut dire que plus on a de détails sur la prestation qui doit être fournie, plus on a de chances d'avoir la prestation qui est fournie.
Oui, j'en parlais avec Roger, le réalisateur du balado, qui me disait que lui, il avait fait faire des rénovations puis que l'entrepreneur l'avait étiré, Marc-André l'avait étiré. C'est donc important de... Est-ce qu'on peut mettre un calendrier des travaux dans le contrat?
Ben, en fait, tant qu'on n'est pas hors d'ordre public, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans un contrat du moment que vous vous entendez tous les deux dessus. Et l'échéancier des travaux, c'est toujours une très bonne idée de le mettre. Honnêtement, dans le marché actuel, les entrepreneurs ne manquent pas d'ouvrage et c'est assez difficile de les convaincre de mettre une date sur la fin des travaux. Mais c'est toujours une bonne idée d'essayer.
Bon, c'est sûr que mon entrepreneur qui vient signer un contrat avec moi va me demander un dépôt. Alors, Élise, ton conseil, toi, sur le dépôt, qu'est-ce que ce serait?
Ah ben pour moi, c'est de donner le plus petit dépôt possible, 10 % 15 % parce qu'on voit trop souvent des entrepreneurs qui demandent des énormes dépôts, des fois 50 % J'ai même déjà vu des gens qui ont donné 100 % de l'argent avant le début des travaux. Et puis, l'entrepreneur s'est sauvé avec l'argent. Donc, important de mettre le plus petit dépôt possible puis de prévoir de faire des paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
OK. Oui, Marc-André,
oui,
je t'en prie, vas-y.
Si je peux me permettre, là, ça vous donne de l'information sur l'entrepreneur, ça aussi. Quand l'entrepreneur, il demande 10 % avant, bien, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut vérifier que vous êtes sérieux, mais qu'il est capable de commencer ses travaux sans votre argent. Quand il demande 100 %, ce qu'on comprend très clairement, c'est qu'il n'est pas solide financièrement, là. Donc, même s'il est de bonne foi, s'il lui arrive une bad luck, qu'est-ce qui va arriver avec votre dépôt?
Puis c'est rare que quand on poursuit un entrepreneur qui nous a demandé 100 % de l'argent puis qui s'est sauvé avec, qui va avoir l'argent pour nous payer même si on gagne notre cause.
Mon contrat est signé, le grand jour arrive et là, l'entrepreneur ne fait pas les travaux parce qu'il y a le confinement ou alors parce qu'à cause du confinement, il y a ce qu'on comme on appelle en bon français un backlog important. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
Bien, c'est sûr que si l'entrepreneur est dans l'impossibilité d'exécuter les travaux à cause de la pandémie, à cause du confinement, à cause de l'interdiction des rassemblements, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une force majeure. Et puis, l'entrepreneur, il est libéré de l'obligation de faire les travaux chez vous, mais je suis aussi libéré de l'obligation de payer ces travaux-là. Donc, il doit me rembourser. Par contre, si l'empêchement, il est dû effectivement à une liste d'attente qui s'est étirée, bien, il est possible que le contracteur y ait mis pas de date dans son contrat ou qu'il ait mis la possibilité de reporter la date des travaux à plus tard. Puis à ce moment-là, bien, je vais être lié par ça.
OK, je vais devoir attendre, là. Je peux pas me mettre à te poursuivre parce qu'à cause du confinement, il n'a pas pu faire les trucs à temps. Mais est-ce qu'il peut arriver, puis je présume que c'est arrivé, à cause, encore une fois, de la COVID, que l'entrepreneur veuille changer le contrat, que ce soit les frais COVID ou quoi que ce soit, il veut augmenter son prix. Est-ce que je peux m'opposer à ça?
Absolument.
Ou en fait, ce qu'il veut là.
Absolument, on peut s'opposer à ça. Le commerçant, il est lié par son contrat. Il faut qu'il respecte. Il ne peut pas augmenter les prix de façon unilatérale. Imaginez si moi, en tant que consommatrice, j'appelais mon contracteur et je lui disais « Ouais, j'ai un peu perdu mon travail. Puis je pense qu'à cause de la COVID, finalement, ça va être 50 % de rabais. » Il ne serait pas très content. C'est la même chose. Lui non plus, il ne peut pas m'appeler et dire « À cause de la COVID, on a des difficultés financières. Les matériaux coûtent plus cher. » Finalement, ça va coûter le double du prix. Donc, on ne peut pas changer le contrat unilatéralement.
Puis, il y a peut-être une autre manière d'augmenter le prix, mais d'une autre façon, Marc-André, hein, c'est s'amener avec des qualités. On a dit que dans le contrat, prévoir peut-être la qualité des matériaux. En tout cas, si on ne l'a pas dit, je le dis maintenant, ça a son importance. Si ça mène avec des matériaux de qualité inférieure, est-ce que je peux m'opposer à ça?
Bien, certainement. En fait, le contrat, en fait, tout ce qui est prévu dans le contrat, si ce n'est pas respecté d'une manière ou d'une autre, on peut s'y opposer et vice-versa aussi. Là. Si on disait, comme Élise l'a dit, « Ah, ben finalement, je ne suis pas prête à payer le même montant ou je veux payer plus tard que ce qui était prévu », ben lui aussi pourrait s'y opposer. Bien, s'il décide d'installer d'autres matériaux que ceux qui étaient prévus dans le contrat, bien, il y a une partie du contrat qui n'est pas respectée.
Marc-André, tu mentionnais un autre truc tantôt assez majeur, là, assez terrible à vivre. Imaginons là, qu'un consommateur ait été assez peu précautionneux pour donner 100% du prix des travaux. Le jour des travaux, l'entrepreneur ne se pointe pas, il ne se pointe jamais. Bref, je comprends qu'il s'est sauvé tout simplement avec mon dépôt. Problème majeur.
Oui, s'il en est un. C'est sûr qu'il ne faut pas perdre de temps dans ces cas-là. L'idée, c'est que les entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, souvent, ils vont miser justement sur les délais. Ils vont miser sur le fait que le consommateur ne va peut-être pas avoir conservé toutes les traces écrites qu'il faut, qu'il va traîner pour le poursuivre, qu'il ne va pas nécessairement être au fait de ses droits. Plus on agit rapidement, plus on envoie sa lettre de mise en demeure rapidement en s'assurant qu'il l'a reçue, plus on va mettre les chances de notre bord de pouvoir retrouver cet argent-là un jour, soit via l'entrepreneur, soit via d'autres mécanismes comme la caution de l'RBQ ou la caution de l'OPC. Là.
Okay, parce que les entrepreneurs, ça c'est important Marc-André, là, ils sont obligés de verser des cautions?
Oui, pour avoir une licence de la Régie du bâtiment du Québec, il faut que l'entrepreneur soit titulaire d'une caution, donc un montant qui vient garantir ses obligations s'ils n'étaient pas dans la mesure de les respecter.
Mais le problème avec la caution, c'est que si pour en bénéficier, pour avoir la caution, pour se faire payer par la caution, c'est qu'il faut avoir poursuivi notre entrepreneur au tribunal, il faut avoir gagné notre cause et ensuite qu'on apporte notre jugement à la RBQ pour leur dire « payez-moi ». Puis si on est plusieurs victimes, ben c'est pas clair que le montant de la caution va être suffisant pour payer tout le monde. Puis si c'est pas le cas, ben on va être payé en proportion de nos réclamations, donc probablement pas tout au complet.
Ouais, mais c'est quoi une caution? C'est quoi? C'est 20 000, 100 000, 50 000? Qu'est-ce que c'est une caution? C'est variable?
À la RBQ, la façon qu'ils ont choisi d'appliquer ça, c'est qu'ils imposent 40 000 aux entrepreneurs généraux et puis 20 000 aux entrepreneurs spécialisés. Honnêtement, c'est quelque chose qui... Oui, c'est pas énorme. Là. Et quand on dit entrepreneurs généraux 40 000, là, c'est la même chose pour l'entrepreneur généraux qui a fait le pont Champlain. Là. Donc, c'est pas du tout en phase avec le montant des travaux. Là.
J'en viens pas là.
À l'Office de la protection du consommateur, c'est pas tous les commerçants qui doivent déposer une caution. Là. Dans le domaine qui nous préoccupe, c'est principalement les commerçants itinérants, ceux qui viennent cogner à la porte ou ceux qui vous appellent pour vous solliciter à prendre leur service. Et puis même si l'Office a augmenté les montants des cautions, puis j'ai pas les montants sous les yeux, là, ça peut des fois être insuffisant s'il y a beaucoup de victimes.
Bon, on commence à voir que nos droits sont relativement restreints, mais imaginons, Imaginons que je prenne d'une certaine façon la justice dans mes mains, comme on est toujours tenté de le faire dans ces cas-là. Mon entrepreneur a vraiment mal foutu les travaux. Je lui demande de réparer, il refuse carrément. Je refuse de le payer. Et là, il y a un truc là, mystérieux qui vient d'arriver. Il a levé une hypothèque légale sur ma maison. Est-ce que, Marc-André, tu peux nous expliquer ça là, en quelques phrases, qu'on comprenne qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là?
Oui, cette bébite-là peut être très complexe, mais si on la simplifie, là, c'est un droit qu'ont des gens qui travaillent sur un bâtiment d'ultimement pouvoir faire vendre ce bâtiment-là en justice pour être payé.
Il faut que ce soit 50 000, 100 000 pour ça, parce qu'une maison, ça vaut 2, 3, 400 000 des fois, là.
Au niveau du montant, s'ils ont travaillé sur un bâtiment, qu'ils ont respecté les règles, et qu'ils n'ont pas été payés. Et ultimement, ça peut mener à la vente en justice du bâtiment. C'est un moyen absolument disproportionné par rapport aux obligations, là.
Même pour 1 000
A priori, oui. C'est sûr qu'il y a des démarches légales à faire pour ça. Donc, j'imagine qu'eux-mêmes vont faire une analyse coût-bénéfice avant de le faire, là.
Mais c'est complètement fou parce que si je fais un parallèle, là, quand on doit de l'argent, nous, en tant que consommateurs, puis qu'on se fait poursuivre par un créancier qu'on n'a pas payé, bien, ils peuvent faire des saisies éventuellement si on ne paye pas, mais on ne peut pas saisir une résidence personnelle si on ne doit pas au moins 20 000 $. Mais à l'inverse, même si je n'ai pas payé des petits travaux, on peut mettre une hypothèque légale sur ma maison pour des montants insignifiants.
En pratique, ce qu'on voit, ce n'est pas des maisons vendues en justice. En pratique, ce qu'on voit, c'est que faut savoir que l'hypothèque légale de la construction, en plus d'être une arme particulièrement efficace, c'est une créance qui vient même par-dessus la créance de votre prêteur hypothécaire. Donc, à supposer que votre maison est encore hypothéquée, supposons qu'il y a une hypothèque légale qui est déposée contre votre maison, c'est évident que votre banque va vous appeler très rapidement puis qu'elle ne sera pas contente. Donc, vous n'aurez pas vraiment le choix de régler le problème.
C'est une énorme arme de négociation dans les mains de l'entrepreneur. Alors, je pense que je reviens à ce que je disais au début. Au lieu de refuser de payer mon entrepreneur parce qu'il a mal travaillé, Élise, t'es avocate, sors-moi de là. Qu'est-ce que je peux faire, là? Comment je peux agir?
C'est assez limité, en fait, parce que... On peut poursuivre au tribunal, donc on peut essayer de faire lever l'hypothèque légale en allant à la cour supérieure. Là, il faut se payer un avocat.
Oublions l'hypothèque légale. Je reviens en arrière, je me rends compte que les travaux ont été mal faits. Alors, au lieu de refuser de payer, qu'est-ce que je peux faire face à mon entrepreneur qui a mal fait ses travaux?
Il n'y a pas grand-chose à faire parce que nos recours sont devant les tribunaux en général quand on veut forcer quelqu'un à faire quelque chose. Et puis, si la créance est de moins de 15 000 $ là, si le montant en litige est de moins de 15 000 $ on peut aller aux petites créances pour récupérer de l'argent en payant sous protêt. Donc, il faut faire un chèque, on écrit « je paye » tout en protestant de voir cet argent-là. Mais le danger avec ça, c'est que quand on confie notre sort à un juge, c'est un coup de dé. On ne sait pas si le juge va nous donner raison, si on va gagner notre cause et si on va être capable de récupérer l'argent qu'on paye tout en pensant ne pas le devoir parce que nos travaux ont été mal faits.
Mais là, si je vous comprends tous les deux, là, hypothèque légale, difficulté de retrouver un entrepreneur qui sauve avec le fric, difficulté de démontrer devant le juge un paquet d'affaires, on n'est pas vraiment très bien protégé, là.
Bien, c'est difficile, en tout cas, de faire valoir ses droits dans ce domaine-là. C'est pour ça, je pense qu'il faut sensibiliser les gens le plus possible à faire de la prévention parce qu'une fois que les problèmes sont arrivés, bien là, c'est beaucoup plus difficile de faire valoir nos droits. C'est un réel problème d'accès à la justice. Puis là, on n'a même pas parlé des contracteurs qui commencent des travaux ou qui font mal des travaux puis qui laissent ça en plan puis que vous vous retrouvez avec des murs tout ouverts, des tuyaux qui fuient puis des planchers arrachés.
Durant le confinement, là, il y a eu des problèmes d'humidité dans les constructions qui ont été laissées, pas à l'abandon, mais qui ont forcément été laissées sans travailleurs pendant quelques mois. Là.
Ah, certainement qu'il y en a eu. Certainement qu'il y en a eu. Au moins, il y a des programmes d'inspection qui ont semblé démontrer que dans les maisons neuves, ça n'avait pas été trop pire. Mais du côté de la rénovation, on n'a pas de données là-dessus. Là. Pour enchérir ce que disait Élise, je pense que ces vérifications-là sont particulièrement importantes dans des rénovations, on va dire moyennes, là, d'une dizaine de mille, quinzaine de mille. Quand vous êtes dans un litige de, disons, 7 000 $ sur votre contrat de 12 000, bien là, normalement, c'est un litige qui se serait réglé à la cour des petites créances. Vous n'auriez pas eu besoin d'engager un avocat. Ça va se régler normalement. Si vous avez réellement raison dans vos revendications, ça devrait bien se passer. Mais avec une hypothèque légale à la construction, tout d'un coup, vous vous retrouvez en cour supérieure, vous êtes obligé d'engager un avocat, peut-être 10, peut-être 15 000, pour régler un litige de 7 000. Vous allez fort probablement choisir de négocier avec l'entrepreneur à perte, là.
Mais morale de l'histoire, là, je pense qu'on revient à ce qu'on se disait au début, là, extrêmement bien choisir son entrepreneur, faire un bon... Écoutez, au fait, dans le contrat, est-ce qu'on peut écrire une clause disant, je ne sais pas moi, l'entrepreneur s'engage à ne pas avoir recours à l'hypothèque légale? Est-ce possible de mettre ça dans un contrat, Élise?
Alors, tout est possible. On peut mettre tout ce qu'on veut dans un contrat parce que le contrat, c'est la loi des parties. Maintenant, je doute fort qu'un entrepreneur renoncerait à ce droit-là.
Marc-André, il y a une chose qui demeure absolument importante. On a parlé de rénovation, bon, ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment, chez nous, dans nos pièces de vie, mais le toit au-dessus de nos têtes, c'est drôlement important aussi. Et ça, là, en soi, c'est un sujet dont on pourrait parler longtemps. Mais il y a quelque chose que tu vas me dire sur la qualité des couvreurs, la qualité exigée par la Régie du bâtiment du Québec.
Oui. Bien, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse en particulier parce que, justement, c'est les entrepreneurs sur lesquels on reçoit le plus d'appels, la couverture. Donc, on pense que c'est d'autant plus important de bien les vérifier. Puis, il ne faut pas perdre de vue que c'est le genre de travaux que les gens font plus ou moins régulièrement. C'est sûr qu'une toiture, c'est garanti un certain temps, là, mais il reste que c'est des travaux communs qui reviennent de manière cyclique. Faut rappeler que, bon, la Régie du bâtiment du Québec octroie des licences d'entrepreneur. Pour être entrepreneur légalement, il faut une licence. Et quand la RBQ fait ça, elle va vérifier que l'entrepreneur est qualifié, qu'il mérite cette licence-là. Et pour ça, ils vont vérifier des compétences dans 4 domaines, dont un de ces domaines-là est l'exécution des travaux. Sauf qu'en 2008, justement, ils vont prendre une décision à la Régie du bâtiment du Québec qui est qu'il y a certains types de travaux, parce que chaque licence permet des travaux différents. Il y a certains types de travaux et on dit, mais ici, le risque est faible. Quand bien même qu'il ferait mal, supposons que c'est un petit muret de béton, là, quand même qu'il ferait mal, ça ne sera pas si grave que ça. Le client va s'en rendre compte, il va porter plainte, il va venir le refaire. Bon. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de vérifier la qualification de ces entrepreneurs-là? Et ils vont décider que non. Ils vont mettre une annexe dans laquelle...
Il ne vérifier la qualification des couvreurs.
En exécution des travaux. Il va falloir qu'ils démontrent qu'ils sont capables de gérer des projets.
C'est mon mot de voyage.
Je suis outré, je déchire ma chemise. Ça n'a aucun bon sens. C'est quand même des travaux qui valent de l'argent, là. Une toiture, on ne t'entend pas en bas d'une dizaine de mille facile.
Ah oh non, c'est 10 à 20 000 et 20 à 30 000 si tu veux mettre un polymère, là, parce que là...
Mais moi, j'ai un tout petit toit.
Un tout petit toit, mais oui, un petit peu plus grand. Élise, c'est cher. Okay, mais oui. Tu n'en reviens pas, Marc-André, il ne vérifie plus la qualification de ces gens-là.
Ben, il ne la vérifie pas en exécution des travaux, effectivement. On se fait l'avocat du diable. Hein, la logique, c'est que la RBQ est là pour s'assurer de la sécurité des personnes. Si un entrepreneur qui fait des ascenseurs manque son coût, il va avoir probablement des décès. Si un entrepreneur qui manque son coût en faisant la toiture, il va peut-être avoir au pire un cas de faillite. Donc, il ne le vérifie pas. Et nous, évidemment, c'est quelque chose qu'on déplore grandement, mais c'est surtout quelque chose que le consommateur doit être conscient. Surtout pour les consommateurs en habitation, là, on parle de portes et fenêtres, isolation, étanchéité, couverture, revêtement extérieur. C'est des catégories de licences pour lesquelles la RBQ ne vérifie pas l'exécution des travaux et pour lesquelles donc le consommateur doit être particulièrement prudent. En ce qui concerne spécifiquement les toitures, par exemple, ils peuvent vérifier, il y a l'Association des maîtres couvreurs du Québec qui regroupe des entrepreneurs en toiture plus exigeants que la moyenne, mais ce n'est pas la norme. Les gens, en général, les entrepreneurs sont rarement membres de cette association-là.
En résumé, là, je pense que tout ce qu'on a dit en matière de prévention, c'est-à-dire bien choisir son entrepreneur et surtout prendre beaucoup de précautions dans la rédaction du contrat commun qu'on va signer avec lui, là, ça devient extrêmement important, je dirais même vital.
Alors, oui, je pense qu'en matière de construction, là, vaut mieux prévenir que guérir est particulièrement applicable.
Parce que, d'après ce que j'entends, là, nos droits ne sont pas très élevés dans ce domaine-là. Alors, Élise, Marc-André, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est un plaisir.
Vous avez d'autres questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options Consommateurs sur Facebook ou Twitter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve dans 2 semaines.